Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le journal. Bonsoir Aude.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une ce soir, ce document RTL, deux jours après le meurtre de Chahinez.
Cette mère de famille brûlée vive par son mari, son voisin qui habite juste en face, a raconté la scène à notre correspondant Denis Grandjou. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et puis cette question, les laboratoires vont-ils lever les brevets de vaccins anti-Covid? Proposition des États-Unis, mais la question est loin d'être tranchée.
RTL Soir.
Deux jours après le meurtre de Chahinez à Mérignac, cette femme brûlée vive par son mari, on n'en sait plus sur le profil du tueur. L'homme multi-condamné aurait voulu la punir, la soupçonnant d'avoir un amant. Denis Grandjou a recueilli un témoignage exceptionnel. Le récit glaçant d'un voisin qui a vu toute la scène. Il a même tenté de s'interposer. Il habite juste en face. Attention, le témoignage que vous allez entendre est très éprouvant.
J'ai entendu dans la rue des cris, un homme et une femme, et puis j'ai entendu deux détonations. Moi, je pensais que c'était des pétards et que les personnes les engueulaient, parce que ça arrive quelquefois. Et puis j'ai pris mon bip, puis je me suis mis là, j'ai ouvert le portail. Et puis quand le portail s'est ouvert, j'ai vu la femme qui était dans le caniveau, la tête dans le caniveau et allongée sur le trottoir, et le gars qui lui déversait le bidon. Alors moi j'ai hurlé, je lui ai dit d'arrêter, je l'ai traité de tous les noms, de salopard, tout ce que je pouvais. Il n'a jamais détourné la tête. Et puis j'ai foncé dessus, et puis il s'est baissé, puis il a allumé avec son briquet. Et quand je suis arrivé dessus, j'étais à 1m50, il m'a braqué avec un pistolet. La femme a hurlé à côté parce qu'elle était, il y avait des flammes comme ça, un mètre. Et donc lui, il a ramassé sa carabine qui était au sol, il venait de tirer les deux coups, il s'est mis la carabine sous le coude, il a bricolé, il a rechargé, et puis il m'a regardé, mais visage vide, hein. Et puis il est parti en petite foulée. Moi j'ai foncé tout de suite dans le garage pour prendre des couvertures, et puis je suis ressorti avec pour essayer de faire ce que je pouvais. Le médecin du centre médical, lui, il arrivait aussi en courant. À deux, on a essayé de éteindre, mais vu ce qu'il avait mis comme produit, on éteignait d'un côté, ça repartait aussi sec de l'autre, et puis après, les couvertures ont pris feu. Et si vous voulez, moi, ce que j'ai en tête, c'est cette dame, elle n'est pas morte tout de suite. Hein. Et elle implorait du regard, elle implorait, on voyait ses lèvres qui essayaient de dire quelque chose, et puis vous êtes là comme un idiot. Et puis après, il y a une dame qui est venue avec un extincteur, on a fini d'éteindre, en fait, en quelque sorte. Et puis, après, moi, j'ai appelé la police. Et puis après, tout s'est enchaîné, quoi.
Un document RTL signé Denis Grandjou à Mérignac. La ministre de l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno, était l'invitée d'RTL Soir. Et elle lance un appel.
Moi, j'ai juste envie de lancer un appel à tous les juges de France qui ont compris combien ces drames intrafamiliaux étaient grave. J'ai envie de leur lancer un appel et de leur dire de considérer toutes ces violences conjugales comme des priorités au sein de leurs tribunaux. C'est un changement culturel dans lequel nous sommes rentrés. Il y a encore quelques temps, ces drames intrafamiliaux étaient considérés comme des actes de faits divers. Aujourd'hui, ils font la une des journaux. Tout le monde s'en émeut. Ça veut dire que notre pays est en train de prendre conscience de l'inhumanité de ces actes, et tout notre pays doit s'en saisir, et les juges ont les moyens aujourd'hui, au travers des lois qui ont été votées, de changer cela.
L'appel au juge d'Elisabeth Moreno, la ministre de l'égalité homme-femme, particulièrement émue tout à l'heure dans RTL Soir, a noté que les inspections générales de l'administration et de la justice ont été saisies pour vérifier s'il y a eu des manquements des services de l'État. La mission doit rendre ses premières conclusions mardi, la semaine prochaine.
C'est l'autre titre du jour. L'homme qui a tué un policier à Avignon sur un point de deal hier soir est toujours recherché. La victime, un homme de 36 ans, papa de deux enfants, revenait d'une intervention. Le procureur parle ce soir de meurtre. Aux assises de Savoie, quatrième jour du procès de Nordal, le Landais accusé du meurtre d'Arthur Noyer en 2017. La cour a visionné les dernières images d'Arthur Noyer vivant, issues de la vidéosurveillance. Anne Le Hénaff, les experts médico-légaux doutent de la version des faits de Nordal, le Landais.
Oui, on voit bien et on le savait d'ailleurs qu'Arthur Noyer avait beaucoup bu ce soir-là, sur les images en noir et blanc dans une boîte de nuit. Il danse, un peu désarticulé, titube, pose sa tête sur le bar. On le retrouve ensuite tanguant dans les rues de Chambéry. Il s'allonge par terre pendant de longues minutes. À 2h22, il s'agrippe à des arceaux sur lesquels on accroche les vélos afin de tenir debout. Dans la salle, son frère ne quitte pas des yeux les dernières images d'Arthur en vie. Un médecin légiste commente en visioconférence « Sa tête ne tient pas, son tronc tourne autour de l'axe. Il n'est pas en état de porter plusieurs coups de poing précis dans une même zone, ni d'en recevoir plusieurs d'affilée sans tomber. » Mais c'est pourtant cela que raconte le Landais depuis le début. Un Arthur agressif qui lui donne 6 ou 7 coups de poing et lui qui réplique. Et ces images, on les a vues aussi, tournées lors de la reconstitution. Nordal le Landais, massif, boxe à un mannequin. Plusieurs directs, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, la tête en caoutchouc valdingue. Une partie de la famille du caporal a préféré quitter la salle pour ne pas voir la scène.
Compte rendu d'audience signé Anne Le Hennaff à Chambéry pour RTL. Une info politique avec le départ de Christian Estrosi qui quitte à son tour les Républicains. Le maire de Nice dénonce les dérives de son parti d'origine. C'est le deuxième personnage politique de LR à quitter le parti après le maire de Toulon, Hubert Falco, hier. Petite pause et dans un instant, on va se demander si la France pourra bientôt fabriquer ses propres vaccins anti-Covid.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Otto.
19h08, suite du journal Audvernuccio et on va revenir sur la situation sanitaire avec une annonce inattendue et en tout cas historique. Les États-Unis se disent prêts à lever temporairement les brevets sur les vaccins anti-Covid.
Cela permettrait au pays de fabriquer eux-mêmes des vaccins avec une simple recette entre guillemets. Odile Pouget, bonsoir.
Bonsoir.
La question est de savoir maintenant si scientifiquement la France est capable de produire ces vaccins.
Eh bien cela risque d'être très compliqué et surtout très long même avec une recette. Question d'approvisionnement en matières premières tout d'abord, avec une production limitée par exemple de certains enzymes indispensables à la fabrication d'un vaccin à ARN messager. Question de technicité ensuite, il ne s'agit pas d'une simple molécule chimique que l'on peut facilement répliquer. Produire un vaccin à moins 80 degrés comme le Pfizer BioNTech réclame du savoir-faire, du personnel spécialement formé et puis du temps pour mettre en place les chaînes de production. La perfection absolue est exigée, la sécurité aussi, les installations doivent répondre à des normes draconiennes demandées par les autorités réglementaires. Enfin, les grands laboratoires français assurent en ce moment tourner au maximum de leur capacité de production et ils ne veulent pas délaisser les autres vaccins, les patients ayant toujours besoin de se protéger de la coqueluche, du tétanos ou de la rougeole.
Merci à vous Odile Pouget. Une proposition qui ne fait pas l'unanimité. Le PDG de Pfizer déclare qu'il n'y est pas du tout favorable ce soir. Affaire à suivre.
C'est pas complètement étonnant vu ce que ça rapporte au laboratoire qui a réussi à le fabriquer, ce vaccin. Il y a du nouveau dans le calendrier de vaccination. Là, c'est chez nous en France. Ça s'accélère. Dès lundi, les plus de 50 ans seront prioritaires. Et dès mercredi prochain, tous les Français qui le souhaitent pourront réserver un créneau vacant sur Doctolib. En fait, il y aura une nouvelle case à cocher. Et voilà, ce sera case libre ou dose libre. Et on coche ça et on peut y aller quel que soit son âge et sa situation.
Et puis les derniers chiffres, une bonne nouvelle ce soir. La tendance est toujours à la baisse. On compte un peu plus de 5200 personnes en réanimation. Près de 800 de moins au total par rapport au début de la semaine dernière.
L'été qui vient va être crucial pour le groupe Air France KLM.
Le groupe enregistre 1,5 milliard d'euros de pertes au premier trimestre en raison des restrictions sanitaires, sans reprise du trafic aérien à nos touches. Air France KLM est-elle amenée à disparaître ?
Non, en tout cas pas pour le moment. C'est vrai qu'Air France continue de brûler plusieurs millions d'euros chaque jour. Ces montants sont vertigineux, mais ce n'est pas pour autant que la compagnie nationale va disparaître, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, elle vient d'être capitalisé et possédait fin mars plus de 8 milliards d'euros d'assises. La firme tricolore peut donc passer l'été sans turbulence, même si elle a dû léguer quelques créneaux à Orly. L'été, justement, il est synonyme pour la compagnie nationale d'un regain de réservations, mais elles ne seront pas au même niveau qu'avant la crise sanitaire. En Europe, Transavia, la petite sœur d'Air France, enregistre déjà de bons taux de remplissage pour cet été. Air France a également engagé l'année dernière un plan de départ volontaire pour faire fondre sa masse salariale. Enfin, l'État français reste fortement impliqué et croit toujours en l'avenir de la compagnie. Il est d'ailleurs devenu l'actionnaire de référence. Néanmoins, une nouvelle recapitalisation pourrait être nécessaire si la situation venait à se dégrader.
Arnaud Touche du service économie d'RTL. Et puis un dernier chiffre à noter que l'INSEE prévoit une faible croissance au deuxième trimestre en France d'environ 0,25%.
Vous avez choisi de nous emmener en Écosse à présent.
Oui, avec ces élections qui doivent reconstituer le Parlement d'Édimbourg dans un contexte de mécontentement entre pandémie et Brexit. Un vote qui pourrait relancer les envies d'indépendance. Marie Billon, les électeurs ont l'air en tout cas nombreux dans les bureaux de vote.
Ah oui, à Édimbourg où il a neigé, où il a plu, où il a parfois fait grand beau, jamais chaud par contre, les électeurs se rendent quand même aux urnes mais armés de priorités un peu différentes.
Je suis pour l'indépendance. C'est la reprise après la pandémie en premier, puis l'indépendance. À cause du Brexit, l'Écosse devrait avoir le droit de revenir dans l'Union européenne. Mais c'est vrai que maintenant, ce n'est pas le bon moment.
Les Écossais ont deux votes aujourd'hui. Ils choisissent un candidat, mais aussi un parti pour une dose proportionnelle. Alors certains ont fait le grand écart, comme Chelsea, qui a glissé un bulletin anti et un autre pro-indépendance, car elle apprécie la chef du parti nationaliste actuellement au pouvoir.
Je ne sais pas si l'Écosse bénéficierait d'être indépendante, mais Nicola Sturgeon a montré qu'elle est une leader capable pendant la pandémie. Je serais contente si elle restait première ministre.
Mais pour d'autres, le choix cette année était sans équivoque.
Vu ce qu'il se passe aujourd'hui, je ne peux pas voter pour le SNP. Il faut se concentrer sur la pandémie et puis respecter le non à l'indépendance en 2014.
Le parti au pouvoir bataille donc pour convaincre de nouveaux votants, mais aussi pour conserver ses électeurs traditionnels.
Marie Billon, correspondante d'RTL au Royaume-Uni.
Merci à vous. La météo, Peggy Broche. Demain, il y aura plus de soleil au nord qu'au sud.
Et oui,
il y aura plus
changer.
De soleil qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas très difficile.
Et il y aura plus de soleil qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est vrai que le temps a été bien, bien maussade aujourd'hui. Demain,
ce matin, moi, je me prépare tout ça.
Oui.
Je dis, bon, allez, il ne va pas faire froid, je ne mets pas de pull.
Ah ben bah il est frais ce matin, mais oui, vous n'avez pas bien écouté hier.
Ah oui, bah, il est plu, tout ça, machin, tout mouillé.
Avec le vent, tout ça, bon voilà, un temps automnal quoi, c'est ce qu'on avait prévu. Bon, ça ira mieux en tout cas demain. Côté température, il fera encore frais au nord, ça c'est sûr, le matin. Ça ira mieux l'après-midi, mais surtout on va retrouver du soleil sur la partie nord, après dissipation de quelques grisailles matinales. En revanche, le ciel est bien couvert, sera bien couvert entre l'Aquitaine et les frontières de l'Est, avec encore quelques pluies, moins qu'aujourd'hui, mais de la pluie quand même, de la neige sur les reliefs de l'Est. Et puis avec la quantité tombée aujourd'hui, plus demain, attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord. Il fera beau entre la Côte d'Azur et la Corse, avec beaucoup de vent. Et puis l'évolution sera favorable dans l'après-midi. Dans le sud, il restera les trois gouttes localement. Un ciel nuageux, mais quelques trouées possibles entre le sud-Bretagne, nord-Aquitaine, massif central jusqu'aux Alpes du Nord et au nord de la Loire. Là, ce sera un ciel variable entre nuages et éclaircies. Côté température, retour de quelques petites gelées au nord. Il fera frais, c'est vrai. Et les maximales seront en hausse, 13 à Caen, ainsi qu'à Mulhouse, 16 à Paris, Lyon et La Rochelle, 18 au Mans, 19 à Biarritz, 22 à Toulouse, 25 à Perpignan et 26 à Nice.
Et vous vous souvenez ou pas?
De quoi?
Vous nous avez promis un week-end estival.
Bah oui, et ça continue.
Ah, vous
maintenez. Je maintiens, okay. Oui. On se dit comment c'est possible deux jours après le temps qu'on a eu aujourd'hui, mais Météo France nous dit qu'on aura un week-end estival, globalement, en tout cas, samedi. Alors, au nord de la Loire, le matin, c'est vrai que ce
c'est
sera.
C'est le globalement qu'il faut retenir.
Ouais, tout est, vous la connaissez bien,
c'est
Amandine.
À l'échelle de la France.
Tout est dans le globalement.
Évidemment.
C'est l'équivalent des petites lignes sur les contrats, vous savez.
Les astérix, ouais. Vous savez. Ouais. Alors, au nord, samedi, c'est vrai, au nord de la Loire, le ciel sera bien nuageux, mais ça va bien se dégager, ne vous inquiétez pas, il y aura du beau soleil. Comme pour le sud. Côté température, une moyenne de 21 au nord, 26 au sud, des pointes à 31-32 degrés dans les Landes quand même, un samedi. Dimanche.
Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'on vous demande de la mesure, en fait. pas tout le même jour, on voudrait un truc un peu équilibré
dimanche,
sur le.
Bah, dimanche, ça continue en plus et les températures vont encore monter. Très beau partout dans l'ensemble, les seuls bémols, la Bretagne, le Languedoc-Roussillon.
Ouais, voilà,
un gros bémol. De nuages.
Toujours un bémol.
C'est pas un gros bémol, c'est un peu plus de nuages, voilà, il faut nuancer. Et ça tournera à l'orage en soirée uniquement sur l'Aquitaine. Alors écoutez les températures de dimanche, 26 au nord en moyenne, donc plus élevé au nord qu'au sud, parce qu'au sud, on aura une moyenne de 25. On pourrait avoir 27-28 à Paris dimanche.
Mais avec du soleil.
Avec du soleil. Ah. Mais on en profite parce qu'à partir de la semaine prochaine, ça va se dégrader. Les températures vont dégringoler, mais on va revenir à des températures de saison. 18-19, ça va.
Amandine n'a plus du tout envie de plaisanter avec la météo.
Ah non, mais là, aujourd'hui, c'est tellement horrible.
Bon, on profite du week-end.
Je vous ai raconté, moi, ce matin, je me dis, je ne vais pas.
Non, mais moi, je suis partie avec un manteau, une écharpe, comme en plein hiver.
Merci.